Nuités de la semaine qui sont passées partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Cheers 94.3. Pendant un atelier d'écriture, on m'invite à dresser des listes de choses. Choses élégantes, choses éphémères, choses qui font battre le cœur, etc. L'exercice est inspiré d'un classique de la littérature japonaise, les notes de chevet. J'ai oublié tout ce que j'ai écrit ce jour-là, mais le nom de ce texte est demeuré dans mon esprit. L'an Saint-Jean, été 2021. Après plus de 3 années à harceler les libraires usagers au sujet de cette œuvre, j'ai finalement commandé un exemplaire neuf des notes de chevet. Dès les premiers mots, j'entre dans un Japon déconcertant de beauté. L'écriture me perd dans un monde si éloigné. Puis, de temps à autre, me voilà frappé par une image ou une réflexion qui me parle plus que tout. Et je m'émerveille avec l'écrivaine de ce magnifique texte. Sei Shonagon.
Un bateau dont la voile est tissée. L'âge des gens. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.
Alors, bonjour et bienvenue sur la planète des sages. Alors, ici Millie Brousseau-Gauthier. Vous venez d'entendre la superbe voix de Raphaël Laverdière. Salut Raphaël.
Salut, salut.
Qui nous lisait un extrait des notes de chevet, un livre dont l'écrivaine, je pense que notre collègue Patrick Couture avait très hâte d'en parler aujourd'hui. Salut Patrick.
Bonjour. Oui, je suis vraiment excitée. C'est une émission que je prépare depuis cet été, comme je l'ai dit un peu dans mon texte d'introduction. Soit dit en passant, là, ce qu'on entendait en début d'émission, c'était une liste de choses qui ne font que passer. Donc, ça résume quand même assez bien le monde dans lequel on s'apprête à passer. C'est d'une simplicité. Bon, bien sûr, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver ne font que passer. Mais en même temps, c'est chargé de beauté. Puis aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi ça me plaît autant. Puis vous partager cet amour-là pour les mots de Sei Shonagon. Est-ce que vous la connaissiez?
Mais pas du tout. Tout est grâce à toi.
Oui, grâce, merci.
tu m'en avais parlé un peu, là. Je savais que tu avais très hâte de faire l'émission aujourd'hui. Mais non, je la connaissais pas et je connaissais pas son œuvre non plus.
Ouais, ben puis même plus que t'en parler, Millie, ça l'a inspiré certaines choses que j'ai faites cet été. En fait, je t'ai envoyé des poésies cet été à cause de Sei Shonagon, inspirées là par certains passages du livre, puisque ben on se connaît bien dans la vie, mais là cet été on était loin l'un de l'autre, donc j'avais été inspiré par la pratique des dames de cour au Japon. Parce que ben c'est ça qu'elle est, hein, Sei Shonagon. C'est une dame de cour japonaise qui a laissé à la postérité une œuvre sur laquelle on va pouvoir se pencher un peu plus. Donc, ça vous intéresse qu'on commence ça, qu'on entre ensemble?
Ben, y a-t-il autre chose à proposer?
Sinon, on aurait pu parler de death metal.
Ah, mais... bon, c'est correct. Allons-y avec ce que tu as.
Absolument. En fait, c'est qui Seishonagon, Pat?
Oui, bien, on sait peu de choses sur qui elle est, là, niveau biographique, disons. Par exemple, sa date de naissance, ça reste... la date de naissance exacte, ça reste inconnu. On croit qu'elle est née autour de l'an 965. Là, on parle en termes du calendrier romain, de nos années. Mais on ne connaît pas non plus son vrai nom. Seishonagon, c'est un nom de noblesse, ce qu'il appelle en japonais. Et là, j'avertis tout de suite qu'aujourd'hui, je vais devoir dire des mots japonais et je risque de les maganer sur un bon temps pour parler en français. Donc, je m'excuse à tous nos auditeurs qui maîtrise cette langue.
On est un peu déçus, là. On s'attendait à ce que tu maîtrises le japonais en une semaine.
On pensait que tu préparais ça depuis cet été.
Oui, mais c'est ça. Mais je suis plus dans la réflexion que dans comment bien prononcer les choses dans la vie. C'est un problème. Mais bon, le Niubo, si je le prononce bien. Donc, Niubo, c'est un nom, c'est ça, qui est rattaché à un titre de noblesse. Donc, Sei, ça se rattache à son clan, un peu d'où elle vient. Et Shonagon, c'est un titre d'un poste gouvernemental. C'est pas son titre à elle, ça devait être le titre d'un proche, puisque les noms, là, étaient attribués en fonction des... ben, aux hommes, finalement. Ces titres-là, je veux dire, ces fonctions-là, c'était les hommes qui les avaient. Donc, on comprend qu'elle aurait probablement des ancêtres nobles. Par le fait même, là, elle a grandi probablement dans une famille de gens assez cultivés, assez riches. C'est ce qui l'a permis de se faire une place parmi la cour de l'impératrice Taishi. Je pense que c'est Taishi, en fait. Taishi, qui était la deuxième épouse de l'empereur Ichijo. Donc, Ichijo, un empereur important de cette ère-là au Japon. On est à l'ère Heian. Donc, à ce moment-là, il y a Ichijo qui, en fait, alors que Seishonagon arrive à la cour en 1990 environ, il y a que 10 ans, mais il est déjà marié à Taishi qui a 15 ans et il va avoir deux épouses. Donc, elle va être au service de la première, de Taishi, celle-là. Et c'est pendant son service qu'elle va écrire ce fameux livre, Les Notes de Chevet, la traduction de Makura no Soshi, qui signifie plus littéralement livre oreiller, mais là, il ne faut pas entendre oreiller comme la chose molle sur laquelle on se couche. Là. L'oreiller, c'était c'est un objet qui servait à tenir intact la coiffure des femmes pendant leur sommeil, parce qu'on n'est jamais trop coquette et puis on ne veut pas se mêler les cheveux pendant la nuit.
Oui, c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est comme une genre de boîte en bois là, sur laquelle ils dorment, dans le fond.
Oui, quelque chose comme ça.
Il me semble qu'on voit une représentation de ça dans Mémoire d'une geisha, je m'excuse de la référence de la culture populaire, mais on voit ça quand elle vient pour se coucher, c'est une espèce de petit support qu'elle met ou sa nuque, qui tient sa tête relevée pendant qu'elle est couchée. Ça a l'air d'être très douloureux, merci, mais ça tient la coiffure en belle forme.
On est loin de la mousse mémoire.
Non, c'est ça. Exactement. Donc, c'est ça. Le titre, il faut le comprendre en rapport à la dernière note des notes de chevet, où il est indiqué que c'est l'impératrice qui un jour avait une liasse de papier, donc une grosse pile de feuilles, et puis elle était comme « bon, qu'est-ce que je fais de tout ça? » Et c'est Sei qui a dit « ben moi, je pourrais en faire un makura », ce qui a été traduit dans la traduction française qu'on utilise par « carnet de chevet », mais tu sais, c'est pas tout à fait exact comme on le comprend, parce que makura, ben, c'est l'oreiller dont on parle. Et puis finalement, Seishonagon les a pris et elle indique ensuite qu'elle se mit en devoir d'employer complètement cette inépuisable quantité de papier en y notant les faits étranges, les choses du passé, les autres, quelles qu'elles fussent. Et je cite encore, « J'ai donc très souvent laissé courir mon pinceau sans beaucoup d'attention. » Et ça nous emmène à la partie Soshi de Makura no Soshi, qui signifie, encore une fois, note est une traduction un peu arbitraire, c'est l'écriture, mais on l'a rattaché à une tradition qui s'appelle le Su-Ichu. Là, je suis vraiment sûr que c'est pas la bonne prononciation, mais qui veut dire au fil du pinceau, donc qui est un genre littéraire, si on veut, japonais. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans les notes de chevet? Eh bien, principalement des énumérations, comme on a pu l'entendre en introduction. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a choisi surtout de lire, mais aussi des tableaux qui, personnellement, me fascinent, donc des descriptions, et beaucoup d'anecdotes de cours. Mais surtout, le livre nous permet de découvrir une plume magnifique. C'est d'une beauté incroyable. On voit qu'elle maîtrise les mots. Et tout ça s'inscrit hein, dans son contexte, puisqu'à ce moment-là, on dit souvent qu'on est à l'âge d'or du Japon. Donc, il y a vraiment une culture littéraire, artistique très forte. D'ailleurs, c'est à cette époque que va sortir le roman de Genji, comme certains l'appellent, de Marusaki Shikibu, qui est... on dit que ce serait l'équivalent du premier roman, comme on l'entend aujourd'hui, roman psychologique, si on veut. Donc, un livre fameux, c'est également une femme qui l'a écrit, puisque ben, je pense que Raphaël, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus tout à l'heure.
Oui, mais j'aime le fameux femme. En tout cas, je trouve qu'il y avait un lien. Continue.
Oui, mais c'est ça, mais parce qu'on est à une époque où finalement, c'est les femmes qui s'occupent de la littérature. Donc, c'est pour ça que ben, les deux grandes œuvres, finalement, là, les notes de chevet et le roman de Genji, ben, c'est ce qui ressort de cette époque-là au niveau artistique, littéraire. Et puis, ben, c'est deux œuvres féminines. Donc, finalement, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui nous reste de Sei Shonagon, même qu'après, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait. Hein. On sait que Taishi, l'impératrice qu'elle servait, elle a été tranquillement éclipsée par l'autre impératrice, puis elle est morte en couche vers la fin de l'an 1000. Donc, Sei est restée en relation avec la cour jusqu'en 1013. On sait ça grâce à justement certains écrits, mais après ça, ce qui s'est passé dans sa vie, ben, il n'y a pas de fondement historique sur ce qui est dit. Là. C'est des gens qui ont écrit des choses vraiment plus tard. Là. Elle serait devenue nonne ou elle serait morte en ermitage, mais on est vraiment dans la fabulation. Il n'y a rien de tout ça qui est prouvé. De toute façon, aujourd'hui, comme je vous le disais, moi, je veux surtout qu'on s'arrête sur l'œuvre grandiose qu'elle a laissée, sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Le Makura no Sushi, c'est un texte ancien, donc il faut quand même souligner que sa reconstitution est difficile. On ne sait pas exactement c'est quoi le texte d'origine, c'est même presque impossible. Il faut ajouter aussi que là, je vais vous parler aujourd'hui de l'œuvre en français, traduit, comme je vous le disais, par note de chevet. Et puis, c'est une traduction, donc ça vient avec certaines difficultés. D'ailleurs, je suis content parce qu'on a une traductrice parmi nous, ouais, du moins quelqu'un qui a étudié la traduction, et qui peut nous parler déjà d'un principe de traduction de base, je crois, Amélie, bien sûr.
Oui, donc en fait, on parle souvent, quand on parle de traduction, on parle de l'idée d'une traduction qui est fidèle. Mais fidèle, c'est un mot un peu... Mais c'est difficile, en fait, de qualifier une traduction de fidèle parce que c'est un concept qui est de moins en moins populaire dans le monde de la traduction parce qu'on préfère parler d'idiomaticité. Ça, c'est quoi? En fait, c'est l'idée de produire un texte d'arrivée qui exprime d'une façon naturelle en français les idées qu'il y a dans le texte de départ, donc dans le cas ici du texte en japonais. Donc, ça fait que c'est un texte qui est agréable à lire pour des francophones. Donc, c'est un texte de qualité. Mais évidemment, il faut aussi que le traducteur interprète le texte de départ correctement et qu'il conserve le sens et l'idée principale du texte. Après, il y a toujours un peu un débat chez les traducteurs entre prioriser la forme ou prioriser le contenu. Et dans tous les cas, on peut arriver à ce qu'on appelle une traduction fidèle. Donc, c'est plus une idée de... C'est pour ça que fidèle, c'est un peu vague, mais je sais que dans le cas des notes de chevet, la version française que tu as lue, Patrick, c'est justement une question par rapport à... qui est très idiomatique, le texte, mais qui n'est pas nécessairement... très respectueux de l'interprétation du sens?
Ben exactement. C'est quand même une traduction qui date, là, on parle le début du 20e. C'est André Beaujard qui a fait une traduction vraiment élégante. C'est magnifique à lire. Donc, c'est très idiomatique. Merci de nous avoir donné ce terme qu'on garde avec nous pour les prochains épisodes. Mais justement, donc, super beau. Par contre, au niveau de l'interprétation, on n'est pas sûr. Il y a des choses qui ont été enlevées de certains manuscrits parce que, comme je disais, ben, comme on est toujours en train de faire un travail de reconstitution du texte, ben, il y a toujours un manuscrit qui est plus à jour, si on veut, plus à jour, mais plus proche de la version originale. Et puis, ce que Beaujard a gardé, donc le manuscrit que lui a utilisé, c'est peut-être pas le plus exact, disons-le comme ça. Et aussi, en fait, et c'est ça le plus important, une interprétation qui est rattaché à, comme je disais tantôt, là, à l'écriture au fil du pinceau. Donc, il y a vu dans ce texte-là un texte, une écriture intime. Et c'est comme ça aussi qu'on entend beaucoup parler du texte en Occident. Entre autres à la radio, mais j'ai écouté quelques émissions de radio françaises qui se penchaient sur les notes de chevet, ou encore il y a un film, Sans soleil, qui parlait également des notes. Et puis, ce qu'on remarque toujours, c'est qu'on en revient toujours à cette écriture du jeu intime. On imagine vraiment le Sey qui écrivait seul dans sa chambre le soir. Et puis ça, je crois que c'est une façon d'observer le texte sous la loupe de notre propre culture. Hein. On y voit quelque chose qui est très populaire aujourd'hui, l'écriture de l'intime, l'intimiste. Je sais pas, c'est difficile, je crois, d'échapper à ce piège-là. Je sais pas comment vous voyez ça. Vous, est-ce que c'est important pour vous d'avoir regardé le texte comme on le regardait à l'origine, ou c'est correct de faire ce genre d'interprétation-là rattachée à notre vision des choses, à notre vision moderne?
Je pense que c'est difficile, en fait, de se détacher de cette vision moderne-là, parce que c'est le monde dans lequel on vit, c'est notre façon de réfléchir qui est influencée par ça. Donc, c'est difficile de rester dans l'esprit de l'époque, parce que, ben, en tout cas, personnellement, le Japon de l'ère Heian, je le connais pas du tout. Puis j'ai pas pu m'empêcher, personnellement, en lisant des extraits du livre en préparation de l'émission, de trouver que ça ressemblait vraiment beaucoup à un journal intime. Peut-être que l'idée, c'était plus de exprimer ce qui se passait à la cour, puis qu'elle se disait peut-être que quelqu'un allait la lire éventuellement, ou que ça allait être partagé, publié, qu'elle écrivait dans ce but-là. Par contre, c'est difficile pour nous d'imaginer ça, surtout qu'elle raconte des détails vraiment précis, des anecdotes, elle fait des listes de choses qu'elle trouve belles. Des fois, elle fait juste énumérer des choses qui existent. Par exemple, elle fait des listes de montagnes, puis elle fait juste énumérer des montagnes, ou des listes des prairies, puis elle énumère des prairies. Donc, c'est quand même spécial de se dire qu'elle aurait pensé d'écrire ça dans un but de le partager au monde.
Oui, ben c'est ça. En fait, c'est un peu dans cette position-là qu'il faut se placer. On est toujours, hein, quand on lit un texte, pris avec ce qu'on connaît un peu déjà. Et le texte peut nous emmener à connaître autre chose, mais c'est dur de se détacher complètement là, de notre subjectivité. T'sais, on peut pas, justement, lire le texte comme si on était un Japonais de l'an 1000. Mais bon, puis toute l'interprétation que je parlais du journal intime, tu sais, je le disais en introduction, moi j'ai découvert ça dans un atelier d'écriture où c'était vraiment ça le but, là, d'entrer en nous, de faire ressortir, de brasser un peu notre intériorité encore une fois. Mais bon, où je voulais en venir, tu l'as un peu, tu m'as devancé un peu là-dessus, Émilie, c'est que la théorie, la tradition de lecture de plus en plus populaire, c'est de voir les notes de chevet comme un texte qui avait vraiment une volonté de rendre compte de la situation dans laquelle Sey se trouvait, donc avec une volonté, si on veut, de, ben, peut-être pas de publication, mais du moins d'exposition. Je me rapporte entre autres à un texte là, d'Evelyn Le Cygne Audoly, qui dit que pour elle, les notes de chevet, c'est un éloge du collectif, c'est une célébration de la communauté d'esprit, de la culture partagée. Elle ajoute même là, que ça peut être lu comme un éloge du bon goût, de l'à-propos, qui est érigé dans le texte en qualité suprême. Fait qu'on peut essayer de comprendre en fait ce monde-là où le bon goût, la propos sont des qualités suprêmes, voir comment un tel monde nous apprend des choses. Parce qu'il y a ça aussi, quand on rentre dans les notes de chevet, on est plongé là-dedans, on comprend pas tout, on se rapporte à des choses qui sont peut-être plus personnelles, des visions subjectives de la lecture, mais à un moment donné, on est obligé aussi de faire « OK, c'est pas notre monde, je suis pas au Québec en 2021 du tout ». Je voulais entre autres qu'on lise un passage, donc des choses désagréables à voir. Donc Raphaël, tu peux nous prêter ta voix à Sey Shonagon pour nous lire les choses désagréables à voir, pour voir à quel point la beauté est importante dans le Japon de l'ère Heian.
Quelqu'un dont l'habit a la couture du dos tirée sur le côté. Les gens qui allongent un grand cou hors de leur collet, rabattu sur les épaules. Un jeune garçon portant un pantalon et chaussé de hautes sandales. Mais cela, c'est à présent la mode. Une femme maigre, laide, ayant la peau brune, qui porte une perruque.
Alors, c'était des choses désagréables à voir. Surtout la dernière là, qui rentre dedans. Là, une femme maigre, laide, ayant la peau brune, qui porte une perruque. C'est... On peut quasiment entendre, c'est dégueulasse. Et puis, c'est propre à ce moment-là dans l'histoire du Japon, l'ère Heian. Je sais, alors, Raphaël, que tu as fait plusieurs recherches pour un peu comprendre ce monde-là. Est-ce que tu peux nous en parler plus largement pour qu'on voit dans quel univers on est plongé?
Absolument. Et pour comprendre cette œuvre-là, c'est important de retourner dans le contexte historique, le contexte culturel de l'époque. On comprend comment une œuvre comme ça s'inscrivait là, dans tout un contexte où c'était la beauté qui était comme la valeur première de cette société-là à l'époque. Mais si on revient un petit peu en arrière, bon, on est dans la période Heian, comme tu l'as dit. C'est une période qui est connue dans l'histoire du Japon pour ses apports culturels, ses apports littéraires importants. Et ce qui fait de l'époque Heian une époque, c'est qu'à ce moment-là, il y a une mise en place gouvernementale, bureaucratique, qui est modifiée par rapport aux périodes précédentes. Donc, c'est un gouvernement qui est maintenant beaucoup inspiré de ce qui se faisait en Chine à cette époque-là. C'est établi autour de l'empereur en la capitale de Heian-kyō, qui est l'actuelle Kyoto, donc l'ancienne capitale du Japon. Et ça va être une époque de relative paix. Donc ça va de pair avec le développement d'une toute une culture aristocratique très importante, un mode de vie qui va être très raffiné, où on pratique la poésie chinoise et japonaise, la musique, les danses, tout ça. Donc on aime vraiment tout ce qui est chinois à cette époque-là. Et là, il faut garder en tête tout de suite d'entrée de jeu qu'on parle d'une période historique, mais par rapport aux documents qu'on a qui nous vient de l'élite, de l'aristocratie. Donc, il faut garder en tête que la période comme on la connaît, c'était beaucoup comme l'élite nous l'a reflété. Donc, en gardant ça en tête, comme tu l'as dit, là, Patrick, c'est une période de littérature qui était essentiellement féminine. Donc, les femmes à cette époque-là, c'est elles qui sont les garantes de la culture poétique, de la prose, tout ça. Parce que la langue qui était écrite par les hommes, c'était beaucoup le chinois, qui était la langue du pouvoir, de la bureaucratie, tandis que les femmes, c'était plus le japonais. Et les femmes qui étaient les autrices de cette époque, c'était beaucoup des femmes qui étaient dans la moyenne ou basse noblesse, donc c'était très, très hiérarchisé, mais on était dans des femmes là, qui étaient quand même partie de l'aristocratie. Donc, ça pouvait être des femmes de gouverneurs de province, de fonctionnaires, tout ça, des dames de compagnie. Donc, c'était des femmes qui étaient placées souvent à la cour quand elles étaient capables de se distinguer par leur esprit, par leur éducation. Et à cette époque-là, bon, c'est ça, il y avait la vie politique qui était dominée par le clan Fujiwara et les chefs de famille faisaient en sorte que les filles à cette époque-là épousaient des empereurs. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que Seishonagon est entré à la cour. C'était une des filles d'un grand chancelier de ce clan-là. Et les dames de compagnie, à cette époque-là, bon, c'est des femmes, comme je l'ai dit, là, qui appartiennent déjà à une certaine noblesse. Et leur esprit cultivé, ça faisait en sorte de refléter favorablement sur la dame qu'elle servait. Donc, c'était important, ce prestige-là.
Oui, et ça, on le voit beaucoup dans les notes de chevet. Sei est constamment en train de rappeler certains faits où elle s'est distinguée. Et beaucoup ont lu ça comme de la vantardise, alors que c'est très propre, justement, à l'époque, au contexte. C'est ce qu'elle devait faire, en fait. C'était son poste de se distinguer et le Exactement. Montrer, l'exposer.
C'était sa job de bien paraître, puis d'être intelligente, puis de cultiver la beauté.
Ouais, une job intéressante, bien paraître.
Il y en a des pires.
Mais ça a l'air assez difficile quand même, là, parce oui. qu'il y a beaucoup de codes, beaucoup d'attentes. Oui. Et pour nous, c'est quelque chose de très lointain. Donc, il y a certaines choses qu'on comprend pas nécessairement pourquoi c'est important ou, tu sais, des fois, il se passe des choses, puis comme je ne sais pas comment agir, mais en même temps, pour nous, ça semble vraiment banal, mais dans la façon qu'elle écrit, ça a l'air d'être genre super dramatique.
Exactement. Donc, c'était un monde qui était très codé, très normé, très hiérarchisé. Donc, tous les rapports étaient justement structurés par toutes sortes de codes sociaux qu'il fallait respecter. Et si on revient à l'esthétisme, comment on en est venu justement à faire de l'esthétisme une des valeurs principales de la société? Ben, je vous ai parlé que tout le monde tripait sur ce qui était chinois à cette époque-là. Et on aimait beaucoup le cérémoniel, le rituel, la grandiosité qui était associée au bouddhisme chinois à cette époque-là. Donc, il y avait un engouement général pour tout ça. Le bouddhisme chinois a beaucoup influencé le gouvernement, la structure politique également. Donc, ça faisait un gouvernement qui était beaucoup plus cérémoniel qu'efficient, selon les gens qui ont fait des recherches sur cette époque-là. Et comme l'aristocratie cherchait à demeurer au pouvoir le plus possible, les gens qui étaient nommés aux postes importants, c'était souvent nommé par favoritisme. Donc, on aurait eu un système et une économie qui auraient été payables, mais qui garantissaient aux élites tout l'argent et le temps nécessaire pour faire des belles choses, s'amuser.
Oui, il faut dire qu'on est à un moment aussi où il n'y a pas vraiment de grande guerre. Le Japon est vraiment fermé. C'est ce qu'on ressort toujours quand on parle du Japon historique. C'est que, bon, il a été coupé du monde longtemps, donc il était un peu, si on veut, dans une... Il était protégé là, mm-hmm. de ce qui se passait sur, autour. Et c'est ce qui a permis à ça de se développer aussi. Le fait qu'on ne soit pas constamment en guerre, on a plus le temps là, d'écrire des poésies, de bien se vêtir.
Exactement. On parle d'une paix, là, je ne sais pas comment il disait ça, comme au-delà des eaux territoriales, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème. Ça va bien avec les autres pays à cette époque-là. Donc, autour des empereurs, impératrices, il y a une foule de courtisans, de dames de compagnie qui passent leur temps dans les différents pavillons, qui s'occupent de toutes sortes d'activités réjouissantes. Donc, la calligraphie, la poésie, la musique, le jeu de go, la danse, le tir à l'arc, les fêtes, les banquets. Donc, tout ce qu'on peut imaginer qui fait du bien. Des concours de poésie, comme tu en as parlé un petit peu, pour démontrer son esprit, pour impressionner les autres gens, faire bien paraître les gens qu'on sert. Donc, une des raisons pourquoi la beauté devait être tant cultivée et appréciée au maximum, c'était parce que la beauté était considérée comme impermanente, selon la religion bouddhiste. Donc, c'est une idée qu'on retrouve aussi dans le roman de Genji dont tu as parlé, Patrick, qui était une des œuvres majeures de cette époque-là, écrite elle aussi par une femme, qui était elle aussi une dame de compagnie, comme tu l'as mentionné. Et on retrouve beaucoup... dans ce livre-là, l'idée que tout est en surface, tout est impermanent, donc il faut le saisir, il faut en profiter, il faut être sensible à ça.
Oui, c'est intéressant de voir qu'il y a une dimension spirituelle, parce qu'on pourrait quand même critiquer l'artificialité de ce monde, mais il demeure que c'est rattaché justement à une... Si on fait une connaissance de comme tu disais, de l'impermanence, ils savent que ce à quoi ils sont si attachés, c'est pas là pour rester. Donc, ça, je trouve que ça brasse quand même les choses. Hein. On pourrait rapidement voir ça comme un univers complètement superficiel, alors qu'il y a un petit côté de plus. Là.
Tout à fait. Puis à cette époque-là, la sensibilité à l'art, c'était vraiment la marque de commerce de l'aristocratie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les aristocrates étaient supposés vivre de la mélancolie dans leur vie, là, périodiquement. Pour avoir l'air sensible, il fallait avoir des périodes de mélancolie dans sa vie, de tristesse, pour bien paraître, pour paraître sensible à l'art. Donc, dans le roman de Genji, notamment, on retrouve le prince Genji, qui est l'aristocrate gentleman idéal, parce qu'il est très sensible, il est capable d'apprécier la beauté, il a un esprit cultivé. La dame idéale, elle, c'est une dame qui va être instruite, mais son éducation est centrée autour de sujets que les hommes vont trouver séduisants. Donc la poésie, la musique, la calligraphie, la littérature. Les sciences, la philosophie, c'est beaucoup réservé pour les hommes. Donc ça faisait en sorte qu'on était quand même dans un, comme tu l'as dit, Milly, on était dans un système qui était très, très normé. Donc il y avait beaucoup de normes justement comme ça sur l'éducation, sur comment se comporter. Il y avait beaucoup aussi de normes physiques de beauté. Qu'à cette époque-là, les femmes, c'est les cheveux le plus long possible. Les visages, les cous, c'est tout blanchi à la poudre de riz. La bouche va être rouge vif. Les sourcils sont rasés. On fait de fines lignes sur le haut du front, très, très haut. On se noircit les dents aussi. C'était apparemment plus séduisant que d'avoir les dents jaunies.
C'est magnifique. Écoute, moi, tu me décris la femme idéale. mais bon, c'est des codes. Les codes sont différents, mais il n'en demeure pas moins qu'on est dans un univers, justement, où la beauté est au centre. On peut le comprendre. Une autre beauté, mais une beauté certainement. Merci beaucoup, d'ailleurs, Raphaël, de nous avoir fait ce portrait général-là. Je pense que ça va faciliter nos discussions autour de Sei, autour de ces fameuses notes. Mais avant, je crois qu'il faut quand même écouter quelques publicités et également une chanson qui va faire un beau lien avec notre thème d'aujourd'hui. En tout cas, on va voir si vous voyez le lien, mais nous on en voit un.
C'est... Oui, donc effectivement, on écoute quelques publicités, puis on est de retour après la pause avec la chanson « Les eaux de Mars » de Georges Moustaki. Restez à l'écoute sur les ondes de Chiz 94.3.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie, j'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
La passe est captée par son receveur, touché, rouge et or!
Fort de deux victoires consécutives, le Rouge et Or affronte ce dimanche le Vert et Or de Sherbrooke en direct du Stade TELUS de l'Université Laval. Ne manquez pas l'avant-match dès 12h30. Rouge et Or contre Vert et Or, ce dimanche 13h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses?
Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne.
Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air. C'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond. Le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose, le jardin qu'on arrose. Une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte. C'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Et c'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond. Et peine, et on finit de camine, et on reste dit toc, et on poque sozine. Par une pierre, chemin qui chemine, reste de racine, c'est un peu solitaire. Par une pierre, chemin qui chemine, reste de racine, c'est un peu solitaire.
Alors, on vient d'entendre « Les eaux de Mars », une chanson bien connue de Georges Moustaki qui est parue en 1973 sur l'album « Déclaration ». Donc, Patrick, pourquoi on a choisi cette chanson aujourd'hui?
Oui, aussi simplement que c'est une chanson liste, donc une chanson qui dresse, qui énumère. Là, on est dans la thématique du printemps. En plus, on sait que les saisons, c'est très important chez Sei Shonagon et dans toute la littérature japonaise. Donc, c'est ça le lien. C'est tout simplement une belle énumération parce que, comme on le disait, c'est ce qu'on retient le plus des notes de chevet. Cette façon-là de nous dresser, nous inspirer à partir de listes. Parce que c'est plus que des listes d'épicerie, là, on s'entend. C'est des listes poétiques.
Oui, c'est ça. Il y a une certaine poésie, une certaine beauté, un émerveillement dans ces listes-là, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. Comme dans celle de Georges Moustaki. Et aussi, bon, on s'entend que ça fait toujours plaisir d'écouter du petit Georges.
Oui, ben oui, avec plaisir, c'est sûr.
Je viens de lui donner un surnom. Okay. Qui...
Je savais pas que vous étiez proche, là, ouais, toi et lui.
On s'appelle des fois le soir, il me parle des herbes. Comment qu'il dit ça déjà, les herbes dans sa chanson? Les mauvais... Non, c'est pas les mauvaises herbes.
Ah, heureusement qu'il y a de l'herbe.
Heureusement qu'il y a de l'herbe, c'est ça. Référence ça. Très, très subtile. Ben, peut-être à la marijuana, mais on n'est pas sûr. Hein? Donc, enfin, assez parlé de Georges Moustaki, on pourra faire une émission sur lui. On peut revenir à notre cher Sei, à ses notes de chevet magnifiques qui se déroulent dans le monde dont nous parlait Raphaël avant la pause. Un monde qu'on l'a compris a comme valeur première la beauté. Et comme tu l'as dit, faut toujours voir ça avec un bémol de « oui, mais bon, c'est la description des gens riches, des gens qui avaient la chance de vivre dans cet univers esthétisé. Il y avait quand même des paysans. » Un autre contre-pied qu'on peut faire, par contre, c'est quand même de dire qu'il y a un respect entre les classes dans cette aristocratie-là. On le voit avec les notes de chevet. Il y a plusieurs moments où Sei décrit le travail des paysans, si on veut, avec admiration et avec respect. Donc, c'est un monde structuré, mais c'est sûr que bon, il y a quand même une élite qui en profite et des gens plus pauvres en dessous de ça. Par contre... Ce que je trouve magnifique personnellement, c'est pas de dire « Ah, je veux retrouver ce monde-là absolument », mais c'est de dire « Au moins, il a existé et on a des traces ». Et quand on lit ces traces-là, quand on se retrouve à l'intérieur, c'est inspirant. C'est très, très, très inspirant. Les descriptions de la cour, de comment les nobles s'envoient, par exemple, des poésies constamment, on voit qu'on est dans un monde complètement artistique, même que Sei compare souvent sa vie à des peintures, ou bien plus, encore une fois, à des poésies. Là, je le dis comme ça, là, on pourrait dire des poèmes, mais on parle vraiment de des poésies, du moins dans la traduction que j'ai. Donc, elle se compare, si bien qu'à un moment, on se demande si la vie elle-même devient pas moins importante que la poésie qu'elle va pouvoir stimuler. C'est peut-être exagéré, mais ça vient quand même avec... ça vient à nous questionner sur quelle est la place de la beauté dans notre monde à nous. Clairement, c'est pas ça, mais est-ce qu'il y a assez de beauté dans notre monde? Est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'on pourrait quand même reprendre un peu de cette matière-là et se dire qu'on pourrait structurer notre monde avec entourer un peu plus de beauté autour de nous? Je sais pas si ma question est claire, ce que ça vous inspire comme réflexion.
Ben, moi, ce qui me vient en tête, c'est que cette époque-là a rendu possible le fait de cultiver la beauté dans un monde assez isolé, je dirais, assez protégé. Et ça me fait me questionner qu'est-ce que ça prendrait pour que nous, on puisse arriver à des valeurs de cet ordre-là, étant donné qu'il y a tellement d'inégalités, il y a tellement de choses difficiles dans le monde. Je sais pas si c'est comme ma vision un peu fataliste, mais je vois peut-être un danger de ségrégation des choses qu'on considère comme mauvaises ou laides par rapport à ce qu'il faudrait entretenir pour que le monde soit beau. Mais peut-être que vous avez d'autres idées.
Personnellement, ce que j'ai retenu de Sei Shonagon, c'est vraiment sa capacité d'émerveillement, en fait, de trouver les petits détails, les petites choses qui sont belles, qui font qu'il y a de la beauté dans le monde, finalement. La poésie avec laquelle elle s'exprime pour énumérer des choses toutes simples, mais que quand on y réfléchit, c'est vrai que c'est beau, tu sais, quand on prend le temps d'y accorder de l'attention, qu'on s'émerveille nous aussi de ces petites choses-là. Je trouve que c'est une belle façon de cultiver là, la beauté dans notre vie. Là. C'est peut-être un peu quétaine dit comme ça, mais je pense que c'est vrai qu'avoir une capacité d'émerveillement, je trouve que ça aide à apprécier plus la vie.
Mmh. Oui, et c'est aussi se détacher dans une certaine mesure de l'utilité, de ne pas voir les objets uniquement pour leur fonction, de « Ah, par exemple, je ne sais pas moi, cette rue-là, ben, ça sert à se déplacer », mais de dire « Oui, OK, mais qu'est-ce qu'on peut y ajouter qui est au-delà de l'utilité et qui est dans cette dimension esthétique qui vient quand même avec un sentiment d'élévation ». Moi, c'est ce que je ressentais en lisant les notes cet été. J'étais constamment... en train de me sentir comme une corde qui me tirait vers le haut. Et je pense que c'est ça que l'art permet, l'art imbriqué à un monde, à une société qui est en train de fonctionner.
Oui. C'est vraiment intéressant ce que tu disais, Patrick, puis c'est quelque chose qui m'était venu en tête aussi, que la manière qu'on construit notre environnement physique, beaucoup, c'est vraiment dans une vision utilitaire d'abord. C'est comme ça la valeur première de notre monde. Mais dans l'histoire, j'ai l'impression qu'on a eu des retours progressifs à la beauté, à l'esthétisme au fil du temps, ou que là, dans cette époque-là, c'était ça qui dominait, c'était ça qui prenait de la place. J'ai l'impression qu'on est en train de se rapprocher un petit peu de ça graduellement. Si on pense, mettons, à l'architecture, à l'urbanisme aussi, entre autres, j'ai l'impression qu'on essaye de tendre vers ça un petit peu. C'est peut-être une vision un petit peu nichée pour l'instant, là, mais...
Oh, mais mon Dieu, tu me fais plaisir. J'aimerais avoir cet espoir que tu as là. Je l'ai peut-être moins, mais effectivement, on peut espérer tendre vers ça. L'autre critique qu'on peut faire d'un monde qui, justement, est centré autour de la beauté, de l'esthétisme, c'est une critique de surface. On l'a déjà abordé un peu tout à l'heure. Est-ce que le monde que nous décrit Say est superficiel? Est-ce que même son écriture, d'une certaine mesure, est superficielle? Adresser des listes comme ça, j'ai le goût, avant de réfléchir à ce sujet, d'entendre une de ces listes qui pourrait nous paraître à la fois belle, mais également superficielle. Donc, encore une fois, Raphaël, on écoute.
Choses qui tombent du ciel. La neige, la grêle. Je n'aime pas le grésil, mais quand il s'y mêle de la neige toute blanche, c'est joli. La neige est merveilleuse lorsqu'elle s'est accumulée sur un toit fait avec l'écorce du tuya. Lorsque la neige a déjà commencé à fondre, ou quand il n'y en est pas tombé beaucoup, elle entre dans tous les interstices des tuiles, et on voit le toit, noir ici et ailleurs tout blanc. C'est ravissant.
C'est intéressant que tu aies choisi cette note pour l'émission aujourd'hui, parce que ce matin, dans l'autobus, je pensais au fait que c'est vraiment rendu l'automne puis que l'hiver approchait. Puis j'ai eu un petit moment de « Ah, j'ai hâte de voir les trucs enneigés, j'ai hâte à la neige. » Je sais pas pourquoi, là, ça m'a traversé comme ça. J'adore l'automne aussi. Mais donc, je trouve ça très beau qui était choisi ce texte-là, parce que c'est vrai que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, de s'émerveiller justement là, de la neige sur le toit, mais c'est vrai qu'il y a une certaine beauté, puis que tout le monde, dès les premières neiges, on a tendance à être émerveillé, mais c'est vrai que c'est quelque chose très en surface, finalement.
Oui, et même comment le nomme, c'est comment elle l'expose par les listes, par ces énumérations-là, avec répéter souvent des trucs comme justement « c'est ravissant »,« c'est merveilleux ». Et c'est quelque chose déjà en littérature, pour avoir étudié la création littéraire, où on nous conseille de ne pas faire, parce qu'il faut que les gens le comprennent par eux-mêmes, que c'est merveilleux et tout. Mais là, c'est dit, c'est juste « Non, mais regardez, ça, c'est merveilleux. » Et effectivement, ça peut nous paraître superficiel, mais en même temps, j'ai une résistance parce que moi, je trouve ça tellement beau, ça me fait vibrer, je suis tellement bien quand j'écoute ou que je lis des passages comme ça. Là, en plus, avec notre belle musique japonaise kitsch, ça rend le moment extraordinaire. Non, je sais pas...
Oui, ben c'est... effectivement, c'est enlevant de lire ça, je trouve, mais la question, justement, de la pertinence se pose quand même. Je pense que c'est pertinent de mettre de la poésie dans nos journées, mais je pense que d'un point de vue peut-être plus intellectuel ou analytique, on peut se demander qu'est-ce que ça apporte outre du beau à la littérature, finalement.
J'ai peut-être une vision un peu différente de ça. J'ai l'impression que des textes comme ça, on parle de la surface puis tout ça, mais j'ai l'impression que souvent la profondeur ou ben les choses essentielles se retrouvent en surface. C'est qu'on a besoin de les chercher, d'aller plus loin. Puis juste ce que tu disais, mettons, à propos du feeling d'hiver que tu as eu, elle, quand elle regarde la neige tomber, quand elle regarde la neige sur le toit, ben moi, on dirait que tout de suite, je vois une association. Ben là, on se retrouve, on trouve un lien peut-être avec le cycle des saisons, avec l'environnement naturel. Il y a peut-être même quelque chose de l'animisme à ce niveau-là. Fait que moi, j'ai l'impression qu'à travers ces choses-là anodines qu'on fait quasiment par automatisme, on écrit par automatisme, mais c'est là que se retrouve l'essentiel parfois.
Oui, à la lecture, j'avais fait un lien avec Montaigne. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Montaigne. Bon, c'est ce fameux auteur du français. Donc, Montaigne qui s'était enfermé dans son château et qui s'est mis à réfléchir sur lui-même, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose qui s'apparentait à ça, une exploration un peu de ses sentiments, de ses sensations, de sa façon de vivre. Et mon intuition, si on veut, a été... pas confirmé, mais du moins a été appuyé par les réflexions de Jean-Claude Carrière à une émission de radio dont on va écouter un extrait dans quelques instants à peine. Mais bon, il disait lui aussi qu'il avait une similitude avec quand même Montaigne, à la différence près pour moi que Seigne ne se creuse pas. Chez Montaigne, c'est très important de tâter jusqu'au plus profond, là, aller chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, alors que justement, Seigne reste en surface. Et c'est un peu là où j'en suis venu que pour moi, ben, en fait, je dirais les deux sont pertinents. T'sais, autant qu'on peut trouver des choses en surface intéressantes qu'on peut en trouver en profondeur. Mais c'est sûr que nous, en étant par exemple des universitaires, en ce moment, on est tous... ben ici à l'Université Laval, en train de justement être constamment dans le travail intellectuel, un travail qui est d'approfondissement, on a tendance un peu à bouder cette partie-là qui est justement plus esthétique, par esthétique je veux dire plus en surface. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je vois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation?
Oui, tout à fait. En même temps, je suis moins une grande connaisseur de Montaigne et ses théories, mais c'est sûr que ça peut nous rejoindre là, en tant qu'étudiants qui ont beaucoup de réflexions.
Oui, exactement. J'ai l'impression qu'on se dit la réflexion doit mener à quelque chose, on doit atteindre quelque chose. Ce qui est en surface, ça ne nous amène rien, mais pourtant, moi, je trouve que c'est là qu'on se retrouve en tant qu'humain.
Oui, exactement. C'est très beau ce que tu dis là, Raphaël. Et puis, une autre partie où, pour moi, Sey a quand même sa place dans le monde. En fait, une place privilégiée, je crois, dans le monde. Je vais laisser, comme je vous le disais tout à l'heure, Jean-Claude Carrière nous en parler à l'émission... on n'a pas fini d'en lire. Donc, c'est l'animatrice au départ qui lance Jean-Claude sur une piste. Donc, on va écouter tout cet extrait.
Dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il y en a d'autres qui peuvent nous parler. Et cette notion d'émerveillement, je voudrais qu'on y revienne. Parce que c'est sûrement ce qui surprend le plus lorsqu'on lit ces notes. Aujourd'hui, on ne s'étonne plus de rien, j'ai l'impression. Et Sey Shonagon, elle, s'étonne de tout. Et il y a quelque chose peut-être de très naïf dans ses notes. Elle s'étonne d'un rayon de lumière, d'une feuille, d'un arbre, de la neige sur les toits. Comme si elle interrogeait notre perception du monde et elle nous amenait à voir ce qu'on ne voit plus.
Oui, ce que vous dites est très juste. Moi, je n'ai rien à y ajouter. Sinon qu'elle appartient à une culture qui va donner le haïku. Mmh. C'est-à-dire à essayer d'être aussi bref que possible et concentré dans peu de mots, sans mots compliqués et sans recherche littéraire. C'est ça le génie de Sey Shonagon, je n'hésite pas à employer le mot. C'est avec des mots très simples, même en français, de nous ouvrir tout à coup, non seulement à un monde lointain, mais à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous nous y retrouvons. Si je vous lis par exemple « Choses qui font naître un doux souvenir ».
Alors, c'est Jean-Claude Carrière qui s'apprêtait à lire des extraits. Nous, on a la voix de Raphaël pour le lire, un peu moins grave, mais peut-être plus proche de Sei Shonagon. Je ne sais pas si Sei parlait plus comme Jean-Claude Carrière ou comme Raphaël Laverdière.
C'est... Excellente question.
Ben, ici, on est là pour se poser des bonnes questions, il faut le dire. Mais oui, je trouve, ben, déjà, voyons, Milly, tu avais avancé sur ce terrain tout à l'heure, le terrain de l'émerveillement. Donc, il le dit, hein, cette capacité d'émerveillement. Donc, c'est l'animatrice au début, hein, qui parle de est-ce qu'elle est encore là dans notre monde? Une question intéressante à se poser, mais aussi comment une telle œuvre, ben, ça développe peut-être cette capacité-là en nous. Parce que, aussi, c'est une œuvre littéraire. Donc, tout à l'heure, on a parlé beaucoup du contexte, sur l'importance ou est-ce que c'est si important, finalement, de la lire comme on la lirait dans son contexte d'origine. Je crois que pour la recherche, c'est important de se rattacher au contexte d'origine. Mais par contre, il y a quelque chose qui dépasse le contexte. C'est ce qu'on appelle la littérature. C'est d'arriver à trouver l'universel dans le particulier. Donc, à se sentir, même si on n'a pas les points de repère, à quand même, à certains moments, faire « OK, non, mais ça vient de me parler. Là, ça vient d'aller atteindre quelque chose au fond de moi. »
Bien, je pense qu'il y a quelque chose de très universel dans ce qu'elle écrit parce que c'est très, très simple. Comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose de à la surface, mais dans le sens où la surface, on peut le voir directement. On n'a pas besoin de creuser pour y arriver. Donc, c'est là, je trouve, le talent de Sei Shonagon, c'est d'être capable de exposer ces choses très simples qui sont devant nos yeux tout le temps, mais de leur mettre le spotlight dessus, puis dire « Regardez, ça existe dans le monde, puis c'est beau.
Mm. » Si je peux continuer sur ce que vous avez dit, que je trouve vraiment intéressant, les œuvres, c'est intéressant d'aller voir d'où viennent, de comprendre d'où viennent, mais on n'a pas besoin d'aller là pour les comprendre avec notre âme, j'ai envie de dire, avec notre tête, avec notre cœur, parce que les œuvres, ils évoluent dans le temps, ce ne sont pas des œuvres figées, ils ont une vie culturelle, une vie sociale à chaque époque, et ce qui fait en sorte qu'on apprécie une œuvre, c'est qu'on est capable de retrouver dans cette œuvre-là quelque chose qui vient nous parler à ce moment-là dans notre vie. Elle peut avoir 2000 ans, ça change rien. Puis notre manière d'apprécier l'art, c'est de voir, c'est ça, voir quelque chose se refléter dans une œuvre, aussi vieille soit-elle.
Et ça va peut-être un peu paraître paradoxal ce que je veux dire, parce que je pense que cette capacité-là d'atteindre l'universel, il y a quelque chose de très particulier au Japon. Donc, je vais prendre l'argument du contexte pour dire qu'il y a de l'universel dans la littérature de Sei, mais comme Jean-Claude Carrière le disait, on parle quand même de la culture du haïku, où le but est de haïku, je sais pas si vous connaissez ces minuscules poèmes de trois vers, donc comment on les fait, nous, c'est cinq syllabes le premier vers, sept le deuxième et cinq le troisième, et le but est dans un texte aussi petit, aussi réduit, d'essayer de le charger le plus possible de beauté et de symbolisme. Mmh. Et c'est ça aussi, c'est en une liste, parfois c'est une phrase là, et tout d'un coup, oh, ça l'allume quelque chose, et on dirait que moi, le sentiment, c'est que mon cerveau est prêt d'exploser, là. Je fais oh, wow, oui, exactement.
Mais c'est vraiment la capacité à créer une image, en fait, je trouve, autant dans les haïkus que chez Sei.
Oui, et une image autant au sens de l'image extérieure qu'on pourrait voir, mais aussi, je pense, une image intérieure. Je ne serais pas capable d'emmener plus loin cette idée, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi. Une image qu'on peut pas nécessairement représenter, mais qui est quand même là, qui est latente en nous et qui, tout d'un coup, nous paraît intelligible. Mm-hmm. Et ça, l'autre côté, je pense, est extrêmement pertinent de ça, c'est l'aspect positif. On lit si peu de littérature positive. En fait, la littérature, le théâtre, les arts narratifs fonctionnent sur cette idée d'un conflit, d'un moteur qui va faire qu'on va s'intéresser à l'histoire. Alors que, bien que dans ces anecdotes, parfois, bon, il y a certains enjeux, et il y a certaines listes plutôt négatives, donc les choses désagréables à voir, ça reste toujours, ça reste jamais dans une vision conflictuelle de « Ah non, là, y a une grosse tension que je dois résoudre. Et ça, ça fait du bien, parfois, d'avoir des œuvres qui, justement, qui nous montrent un côté, un aspect positif du monde.
Bien, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a une certaine légèreté, finalement, dans ce qu'elle écrit. Et une légèreté sans être insignifiant, mais c'est tout simplement quelque chose de qui n'est pas pesant, finalement. Mm-hmm.
Ce qui est significatif, je pense, dans cet écrit-là, c'est que ça vient parler, ça vient mettre en mots, ça vient inviter à vivre des parties de nous-mêmes, des choses qu'on a en nous-mêmes qui veulent vivre.
Mm. Ouais, exactement. Oui, puis aussi, ça nous rend plus sensibles à ces choses extérieures. Donc, ça revient un peu au terme de l'émerveillement. Moi, je voulais donner un exemple parce que, Raphaël, je voulais quand même pas te laisser tout lire les extraits d'aujourd'hui. Je voulais lire du Sei Shonagon à la radio. Ça avait été juste de moi, l'émission, ça aurait été juste la lecture du livre au complet. Mais la note 91, qui est la note sur les vents, donc avec des passages là, comme... Le vent mêlé de la pluie qui souffle au huitième et au neuvième mois m'émeut aussi beaucoup. L'averserait le ciel de traits obliques. Il est amusant de voir les gens mettre par-dessus leurs vêtements non doublés de soirée de l'habit ouaté qu'ils ont porté tout l'été, auquel la sueur en séchant a laissé son odeur. Quand vient le moment où l'on voulait ôter même le vêtement de soirée qu'on trouve trop chaud, il est curieux de se demander quand donc on a pu avoir besoin de se couvrir ainsi. Et puis bon, ça continue, il y a une description de plein de sortes de vents différents, comment les vents font quel bruit dans la maison, le monde, on a l'odeur des vêtements qu'on met. C'est ces choses-là qu'on finit par ne pas remarquer. Mais moi, ça m'arrive tellement souvent, et d'autant plus quand des œuvres comme celle de Sei Shonagon gardent ça vivant en moi, cette capacité à reconnaître « Ah, ce vent-là est différent, il produit un autre effet sur moi. » Et il y a tout un lien aussi qui, encore une fois, est très présent dans la littérature japonaise entre ce qui se passe à l'extérieur, donc les phénomènes météorologiques, et ce qui se passe à l'intérieur des gens. C'est... En tout cas, c'est beau. J'en suis presque ému.
On a vraiment une émission remplie de beauté aujourd'hui, finalement. Pat, est-ce que tu voulais nous dire quelques mots là, pour conclure sur cette écrivaine dont tu avais tant envie de nous parler aujourd'hui?
Oui, ben, je pense que j'étais déjà sur la piste pour moi de ce qu'il faut retenir, peut-être. C'est des œuvres comme ça, des œuvres éloignées. D'ailleurs, à la planète, c'est la première fois qu'on va aussi loin. Tant dans le... ben, on est déjà allé en Orient un peu pour chercher nos figures. Mais là, on est allé loin dans le temps. Là, on parle de l'an 1000. Mais je pense que cette recherche-là est importante d'aller ailleurs pour trouver des choses qui vont comme ça nous inspirer et nous montrer le monde sous une facette belle, sur une nouvelle facette.
Mm-hmm. Mais super. Écoutez, merci beaucoup à vous deux, Raphaël Laverdière et Patrick Couture, d'avoir été des si agréables collègues pour l'émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on parle de qui?
De Bob Marley.
Ouh, OK, on change de registre.
un peu. Peut-être qu'on va faire des liens, hein, Sei Shonagon, Bob Marley, le Rastafari, le Japon de l'an 1000.
En tout cas, ça sera à voir jeudi prochain à 11h sur les ondes de Chiz 94.3. On vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bord de la réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
«
cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3, c'est Guillaume Bédard qui vous parle au micro pour Un phare dans le midi, votre quotidienne d'actualité en ce magnifique jeudi midi du 14 octobre 2021. Ben, je dis magnifique, mais je dirais que dans les sous-sols du studio, on voit pas grand-chose de dehors. En tout cas, c'est une quand même belle journée remplie d'actualités. On va parler beaucoup de santé. On se rappelle que hier, il y a eu une annonce très, très, très importante du ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, qui a annoncé le report de la vaccination obligatoire des infirmières d'un mois. On a plusieurs réactions à ça. On continue à parler des négociations dans le secteur public, particulièrement dans le secteur des CPE. On va parler un petit peu de nouvelles municipales, de politique provinciale également. On a des excellentes chroniques qui sont sorties aujourd'hui dans l'actualité, dans Le Devoir. On va parler